lequel nous avons assisté. Alors peut-être que c'était la première fois que vous veniez dans ce genre de culte. J'espère que ça ne vous a pas choqué. Et puis, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le témoignage de vie, le témoignage chrétien, donc, apporté par ces trois jeunes filles. Donc, on vient d'assister depuis le début de ce culte à des rites chrétiens ancestraux, vous savez ça, qui vous ont peut-être surpris, mais en effet, le baptême tel que nous le pratiquons dans nos églises, ici, les églises évangéliques, eh bien, ça remonte aux origines du christianisme. Puisque Jésus lui-même fut baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Alors, vous venez donc d'assister au baptême par immersion de trois demoiselles dont la somme des âges n'atteint pas le mien. Alors, c'est dire si elles sont jeunes ou alors si je suis vieux. Au choix, hein. Oui, merci Jean-Pierre. Alors, leur passage dans l'eau a été précédé d'un témoignage de vie, de leur propre vie, de leur vie à elles. Elles racontent d'une manière émouvante leur rencontre personnelle avec le Dieu de l'univers. Et moi, je pense que c'est à la fois une démarche courageuse et osée, car elles prennent le risque d'ouvrir devant vous une partie de leur intimité. Franchement, moi je dis, c'est pas facile et c'est bravo. Bravo d'ouvrir son cœur devant un public, certes qui est respectueux comme vous l'êtes, hein, mais qui est peut-être loin de vivre tout ce qu'elles vivent. Alors, j'aimerais commencer par vous poser cette question ce matin. Dans quel état d'esprit êtes-vous venu ici? Bon, déjà, vous êtes venu, c'est déjà bien. Hein, et je vous remercie au nom des baptisés, parce qu'en venant, vous les avez honorés par votre présence et vous leur avez témoigné un attachement profond. Et ça, c'est quelque chose d'important pour elles et pour nous. Alors peut-être êtes-vous surpris, voire dérangé, par la découverte d'un style de baptême différent de celui que vous connaissez. Bien souvent, et c'est ce que j'ai déjà vécu moi personnellement, le baptême s'adresse à des bébés, vous savez, auxquels on ne demande nullement la vie, et pour cause, puisqu'ils sont des bébés, et qu'on asperge d'eau bénite, et qui repartent baptisés sans comprendre ce qui leur était vraiment arrivé. Moi, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé quand... maintenant, c'est un peu tard... Ici, la cérémonie est un peu plus originale, car on est plongé sous l'eau après l'avoir choisie. Il s'agit d'une décision personnelle, libre, sans contrainte. La baptisée témoigne de sa volonté de faire de Dieu le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Pas du tout comme c'est mis là. Hein ? Puis la baptisée refait surface sous les applaudissements nourris et d'autres crépitements de portables et appareils photo, et cet instant restera fixé à jamais sur le papier photo. C'est un souvenir impérissable. On passe ensuite ensemble un agréable moment de convivialité, hein, parce qu'on va prendre aussi l'apéro, le repas, puis chacun rentre chez soi tranquillement pour reprendre ses activités quotidiennes. Mais que reste-t-il de ce beau moment que nous avons vécu? Souvent, rien ou pas grand-chose dans le tumulte de cette existence. Alors, ce matin, j'aimerais utiliser le moment qui m'est imparti pour pouvoir réfléchir avec vous, sans langue de bois, sur ce Dieu que nous ont présenté Mirlande, Lydie et Solène dans leur témoignage. Sur ce Dieu qui a fait que trois jeunes filles ont pris la décision de descendre dans l'eau tiède du baptistère, elle était tiède. Je vous propose donc, avant de passer aux réjouissances corporelles, eh bien, de prendre un temps pour réfléchir et surtout pour méditer. Et est-ce que vous savez que méditer est bon pour la santé? Quelqu'un a écrit « Ne pas prendre le temps de méditer, c'est ne pas prendre le temps de regarder son chemin, trop occupé qu'on est à marcher. » Et ma première réflexion concernant les témoignages, eh bien, c'est Dieu lui-même. Elles nous ont toutes parlé de Dieu, de leur rencontre avec Dieu. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire, cette rencontre. Mais après tout, on peut se poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Bien sûr, moi, je n'ai pas la prétention, à moi seul et en quelques minutes, de faire le tour de cette question sur laquelle débattent depuis des siècles philosophes, scientifiques et théologiens. Hein, ce serait vraiment présomptueux. Mais je vais simplement apporter deux réflexions. Moi, je pense tout d'abord qu'il faut respecter toutes les croyances. Je suppose qu'il y a dans cette salle, par exemple, ce matin, des personnes qui croient que Dieu existe et puis d'autres qui pensent que non. Qui suis-je, moi, pour les juger ? Alors, bien sûr, j'ai mon opinion, mon expérience avec Dieu, mais qui prouve que j'ai raison ? Qui suis-je pour imposer mes croyances aux autres ? Alors, personnellement, moi, je vais dire, je comprends que dans ce monde qui part à volo, qui va très très mal, eh bien, on puisse douter de l'existence du bon Dieu, du Dieu bon. Je le comprends, comme je comprends aussi que dans nos sociétés où l'on croit facilement au Père Noël, on peut croire aussi aux Yeti, aux extraterrestres et autres monstres du Loch Ness, eh bien, on puisse émettre l'idée qu'un Dieu invisible soit une création intellectuelle humaine. Oui, ça, je le comprends. Je comprends tout ça. Par contre, moi, j'avoue que ce que j'ai du mal à accepter et à admettre, c'est une certaine forme de mauvaise foi. Moi, je vais m'expliquer. Par exemple, toutes celles et ceux qui ne croient pas en un Dieu créateur, mais qui, pour justifier la création, disent « c'est la nature qui a créé toute chose ». Alors, deux remarques. La première est « mais qui a créé la nature ?» Et la seconde, qu'y a-t-il derrière la nature ? C'est un peu comme si on disait « la médecine guérit les malades ». Oui, mais derrière la médecine, il y a les médecins. Moi, je travaille dans un lycée, hein, je suis kiné dans un lycée, et puis il y a deux jeunes de Terminale S, de Flavigny, hein, en Terminale S, on connaît toutes choses, et dans le lycée où je travaille comme kiné, ben, on m'a dit d'une manière vraiment assurée, eh bien, des poussières cosmiques sont arrivées sur la Terre après le Big Bang. Elles étaient chargées de bactéries qui ont évolué en cellules, puis ont donné l'herbe, les arbres, les animaux, puis l'homme. Alors moi, je leur ai demandé, je leur ai dit, si je vous suis et si je comprends bien, chaque fois que je coupe des branches ou que je tonds le gazon, je commets un génocide. Qu'on croit ou non, il faut quand même rester sérieux. La question que je pose est, souvent, qui est venu le premier ? L'œuf ou la poule ? Certains disent « c'est l'œuf car la poule vient de l'œuf ». Et puis d'autres disent « non, c'est la poule parce qu'il n'y a pas d'œuf sans poule ben ». C'est vrai, les deux sont vrais. Hein. Et ce débat peut durer des siècles. Mais si la solution c'est « eh bien c'est Dieu qui a créé l'œuf ou la poule ». La nature ne peut rien créer par elle-même. Seul un créateur peut donner vie à ce qui existe. La nature à elle seule, ses perfections invisibles, sa beauté, plaide pour un créateur. Et le grand Voltaire, qui était un esprit hardi et curieux, fut interpellé par les merveilles de la nature. Et il disait ceci, il disait « l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger ». C'est vrai. Et si nous partons à présent du postulat que Dieu existe, nous n'en sommes pas pour autant au bout de nos réflexions. En effet, beaucoup de croyances se revendiquent de Dieu. Ainsi, nous avons le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, le Dieu des témoins de Jéhovah, et j'en passe. Si tous ces dieux existent, avouez que ce serait une cohabitation fort sympathique dans le ciel, mais en même temps, il y a des risques d'embouteillage quand même. Si on réfléchit un instant, on se rend compte que cela n'est pas possible. Car par définition, Dieu est un et indivisible. Dans le livre d'Ésaïe, 44, verset 6, voici ce qui est écrit. « Ainsi parle Dieu, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » En réalité, nous sommes tous plutôt d'accord, croyants des quatre grandes religions, pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes monothéistes, bravo. Mais là où les choses se compliquent, c'est que chaque grande religion revendique Dieu comme étant le sien. « Le seul Dieu, c'est mon Dieu, dit le chrétien. »« Non, c'est le mien, dit le juif. »« Pas du tout, c'est le mien, dit le musulman. »« Ah non, c'est le mien, c'est Jéhovah, dit le témoin. » Eh bien, ce matin, moi j'ai une très très bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est que Dieu n'appartient ni à personne, ni à aucune religion. Il est le Dieu de tous. Il est le Dieu de tous. Franchement, moi je vous pose la question, croyez-vous sincèrement qu'il y a un Dieu qui aime les hommes et rejette les femmes ? Qu'il y a un Dieu qui aime les Juifs et ne supporte pas les Arabes ? Pouvez-vous imaginer un Dieu qui aimerait les chrétiens et détesterait le reste du monde ? Pas possible, ça. Voyez-vous, chers amis, quand on croit cela, eh bien, on cautionne les guerres de religion. On fait de Dieu un souverain injuste, haineux, qui favorise les uns et condamne les autres. Le Dieu dont ont parlé ces trois jeunes filles, et que j'ai personnellement rencontré, n'a absolument rien à voir avec tout cela. Il aime les riches autant que les pauvres, les femmes autant que les hommes, les hindous autant que les chrétiens, et autant les musulmans que les juifs, et les noirs autant que les blancs. Ce Dieu, ce n'est pas notre Dieu à nous, ce n'est pas le Dieu des évangéliques, c'est le Dieu de tous, le Dieu du monde entier. Alors, il faut bien l'avouer, nous avons tendance à créer un Dieu à notre image. Un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui nous convient, qui nous soit acceptable. Les religions aussi nous formatent, elles donnent le plus souvent une image de Dieu qui est très loin de la réalité. C'est tantôt un Dieu combattant, guerrier, un Dieu perfouettard, sévère, exigeant, qui ne laisse rien passer, vous savez, le Dieu qui punit la moindre faute, le moindre écart. Ou alors, ce qu'on a, c'est à l'inverse, on nous présente un Dieu bon grand-père, vous savez, avec la barbe blanche, sympa, détaché, qui ne sévit jamais et laisse tout faire. Ça, c'est le bon Dieu, vous pouvez tout faire. On le présente même parfois comme le Dieu Coca-Cola, vous savez, tu mets une pièce dans la machine, tu appuies sur le bouton et il tombe une bouteille. Quand j'ai besoin de Dieu, je prie et il doit me répondre. Mais en réalité, quelle est l'image véritable de Dieu ? Tout d'abord, et c'est incontournable, nous sommes face à un Dieu qu'on ne voit pas. C'est un Dieu invisible, car vous le savez, Dieu est esprit. Et là, la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu ? Oui, vous l'avez posé, c'est bien. Dieu dit, vous ne pouvez me voir et vivre. Voilà, on ne peut pas en même temps voir Dieu et vivre. Dieu est tellement saint, tellement pur, tellement lumineux, que nous ne tiendrions pas une seconde dans sa présence. Nous qui sommes petits et pécheurs. Imaginez un peu, on ne peut déjà pas regarder le soleil en face. On doit prendre d'infinies précautions pour observer une éclipse de soleil. Alors Dieu, c'est bien plus grand que le soleil. Voir Dieu et vivre, c'est impossible. Et voilà pourquoi Dieu, pour se faire connaître au genre humain, eh bien, a dû se faire homme pour venir à notre rencontre, pour se rendre accessible. Voilà pourquoi. Et les trois grands attributs de Dieu que je vais vous donner ce matin, c'est le premier, c'est Dieu est amour. Certains religieux pensent que Dieu a besoin de l'homme. Alors ils vont tuer en son nom, en faisant le djihad par exemple. Ils vont massacrer les Mayas et les Aztèques en Amérique du Sud, la croix à la main et le pistolet de l'autre. Ils s'en prennent violemment aux USA, aux médecins qui pratiquent l'avortement, ou s'entretuent dans des guerres de religion fratricides, sous toute latitude et sous tout climat. Franchement, je vous le dis, hein, si Dieu a besoin de l'homme, eh bien retirons-lui vite le nom de Dieu, car par définition, ben Dieu il peut tout, il n'a pas besoin de nous. En vérité, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais nous qui avons besoin de lui. Vous savez, le plus beau texte que j'ai jamais lu sur l'amour a été écrit par l'apôtre Paul. Alors normalement, il doit être derrière. Là. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. C'est ça, Dieu. Dieu, lui, est tout cela. Il aime sa création, les gentils comme les méchants. Il est prêt à tout excuser, tout pardonner, tout supporter. Chaque jour, il tend la main à ses créatures, à sa création, pour les combler de son amour. Vous savez, j'entends souvent autour de moi des jeunes et des adultes parler de père procréateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Selon eux, il s'agit d'un homme qui dépose sa petite graine, puis disparaît brusquement, laissant la maman se débrouiller seule et l'enfant sans papa. Bah, je demandais moi à Catherine, une aide-soignante qui travaille avec moi à Flavigny, parce que je dis que je vais faire un message, il n'y a pas un autre terme que le terme procréateur. Elle m'a dit si, il y en a un autre, c'est salopard. Voilà, bon. Donc, voilà. Dieu, lui, au contraire, il est un père qui assume. Pourriez-vous imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, un Dieu créateur qui nous dise « Bye bye les enfants, débrouillez-vous, je n'ai pas que ça à faire, hein, j'ai d'autres chats à fouetter. » Non, un Dieu d'amour assume son rôle de père. Il est là chaque jour à nos côtés, afin de nous aimer, nous aider à grandir, à affronter les épreuves de cette vie, et il y en a, et préparer avec nous l'éternité. L'amour, c'est au-dessus de tout. Mais vous savez, l'amour sans la justice, c'est comme le couscous sans harissa, sans sauce piquante. Il y a quelque chose qui manque. Enfin, je dis ça parce que j'ai ma belle famille qui est là. Hein. Nous l'avons vu, l'amour permet tout, accepte tout, supporte tout. Alors me direz-vous, si Dieu n'est qu'amour, on peut tout faire, hein. Allons-y. Tout se permettre, rien n'est grave, le péché, les torts sont banalisés, il n'y a même plus besoin de pardon, c'est le laxisme total. Dieu est amour. C'est pourquoi Dieu, en même temps, il est aussi juste. Tout péché, tout mal, toute offense a un prix qui doit être payé devant Dieu. Vous imaginez un juge qui dirait à un assassin d'enfant, c'est pas grave, je vous remets en liberté, mais on crierait au scandale, ce serait pas juste. Eh bien, d'un côté, Dieu nous comprend et nous accompagne dans nos faiblesses, ça c'est l'amour. D'un autre côté, il ne peut pas nous considérer comme innocents alors que nous sommes pécheurs. Ça, c'est la justice. Amour et justice sont terriblement compliqués à harmoniser. Seul Dieu a réussi à les concilier en un seul mot, en un seul acte, la grâce, le pardon. Voilà, il a réussi cet exploit. La grâce, le pardon sont possibles parce que Jésus, Dieu fait homme, a payé pour nos péchés sur la croix. Si l'amour a besoin de la justice, il ne peut fonctionner sans la liberté. Pas possible. Imaginez qu'on vous dise, par exemple, Pierre, tu voudrais être menuisier ? Eh bien, tu seras mécanicien. Voilà. Tu aimes cette femme ? Bah, t'en épouseras une autre. La campagne t'attire ? Eh bien, tu iras habiter à Paris. Obliger quelqu'un à faire le contraire de ce qu'il veut faire, c'est un grave abus dans sa liberté de choisir. Et ce n'est pas du tout un acte d'amour. Chers amis, le Dieu de l'univers est avant tout le Dieu de la liberté. Dieu te donne le droit de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté, tu es libre. Dieu te donne le droit de l'écouter ou de ne pas l'écouter. C'est la liberté, tu es libre. Tu es libre de penser que même ce que je dis ce matin, ce sont des bêtises. Tu as tous les droits que permettent notre démocratie. Réjouis-toi, dit Dieu, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Tu es libre, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Parce qu'il y aura un jour où on passera en jugement devant lui. La véritable justice de Dieu, c'est une liberté dont il faudra un jour forcément rendre compte. Car je suis libre, mais en même temps, je suis responsable. Responsable de mes choix, responsable de mes pensées, responsable de mes décisions. Et ce matin, nos baptisés ont fait preuve de responsabilité. À présent, chers amis, il est grand temps de conclure. Ce Dieu de l'univers, ce Dieu de tous, est par-dessus tout un Dieu de relation, qui veut se laisser rencontrer. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé un jour à la chapelle Sixtine à Rome. Eh bien, sur le plafond, le grand peintre italien Michel-Ange a représenté la création du monde, dans laquelle Dieu tend la main à l'homme pour qu'il la saisisse. Cette main tendue, c'est la liberté et la responsabilité de chacune, de chacun de la saisir ou pas. Certains hésitent et restent toujours à distance respectable, en disant « bon, on verra plus tard, on a le temps ». D'autres se retirent et refusent la main tendue du divin Créateur. Non, on n'a pas envie, on ne veut pas, c'est la liberté. Nos baptisés l'ont saisi et sont entrés dans un processus de relation avec leur Créateur. Et nous, ce matin, où en sommes-nous? Qu'avons-nous décidé avec Dieu dans notre responsabilité? Voilà, c'était ça que je voulais vous partager ce matin par rapport aux baptisés, et que chacun donc puisse, dans son cœur, réfléchir à tout ce qui a été dit. Voilà, merci.